VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. La fête nationale des États-Unis est célébrée aujourd'hui, 4 juillet, pour Independence Day, comme on l'appelle ici cette année. Les célébrations sur l'esplanade seront bien différentes. Le président Trump a décidé de prononcer un discours à la nation et il a aussi ordonné un show militaire, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Lionel Gaïma.
Chars de combat et véhicules blindés et survol d'avions de guerre, du jamais vu pendant la fête nationale dans la capitale fédérale américaine. Jamais non plus il n'y a eu de discours présidentiel à cette occasion. Mais le président Trump tient à avoir une célébration pas comme les autres et assure qu'il veut honorer l'armée américaine. Ses critiques l'accusent de politiser un événement unificateur de la nation, mais d'autres Américains s'en réjouissent. Venu de la ville d'Abilene, en Arkansas, John Wiggle est en visite à Washington.
Je pense qu'il est le président et qu'il a l'obligation de parler à son peuple. Si c'est ce qu'il veut et souhaite faire des marches du mémorial Lincoln, je suis entièrement d'accord.
Monsieur Trump a dit ouvertement qu'il a été très impressionné par ce qu'il a vu à Paris le 14 juillet 2017 lors de la fête nationale française. Depuis, il a souvent répété qu'il voulait la même chose à Washington. Durant le récent sommet du G20 à Osaka au Japon, le président Poutine l'a même invité à une parade militaire à Moscou. D'après Yuri Ushako, conseiller du président russe, M. Trump a écouté avec beaucoup d'intérêt.
Nous avons invité le président des États-Unis à venir assister au 75e anniversaire de la victoire au terme de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai de l'année prochaine. Le président américain a réagi très positivement.
Certains Américains s'interrogent sur le coût d'une parade militaire pour le contribuable et d'autres froncent les sourcils devant le goût du président pour les parades militaires. Certains opposants ont même obtenu l'autorisation d'amener sur le National Mall un énorme ballon représentant Trump comme un bébé, comme celui déployé à Londres pendant sa visite. Ce qui n'est pas non plus du goût de tout le monde. Jason Ballard est originaire du Missouri.
Nous sommes venus ici après 3 semaines de route depuis Kansas City, dans le Missouri. Cette fois-ci, nous sommes venus pour voir les feux d'artifice du 4 juillet.
Et les feux d'artifice de l'Independence Day, c'est l'un des plus beaux spectacles à voir dans le ciel de Washington.
Merci Lionel. Le président russe Vladimir Poutine est attendu, lui, aujourd'hui à Rome par le gouvernement italien et au Vatican par le pape. Une visite éclair qui se déroule en pleine crise avec l'Occident. Le dirigeant russe rencontrera notamment son homologue italien Sergio Mattarella, le premier ministre Paolo Conte ainsi que les 2 vice-premiers ministres du gouvernement populiste. Le président russe souhaite échanger avec les autorités italiennes sur les relations Russie-Union européenne, la Syrie, l'Ukraine, la Libye, ainsi que sur le programme nucléaire iranien. L'organisation Human Rights Watch a critiqué aujourd'hui les autorités pénitentiaires irakiennes pour les conditions dégradantes dans lesquelles sont emprisonnés plusieurs milliers d'hommes, femmes et enfants dans des prisons surpeuplées. Dans un communiqué, l'Organisation de défense des droits humains a indiqué avoir obtenu des photographies de la prison de Tal Kaif dans la province de Ninive. C'est dans le nord de l'Irak qui semble montrer que cet établissement, ainsi que ceux de Fazilia et de Tasfirat, ne respectent pas les standards internationaux. L'une des photographies montre des dizaines d'adolescents entassés dans une cellule de la prison de Tal Kaif, pour certains recroquevillés en position fœtale. Les autorités locales du Japon ont demandé à plus d'un million d'habitants de la région de Kyushu de quitter leur domicile en raison de fortes pluies, ravivant la mémoire d'inondations meurtrières il y a tout juste un an. Au total, 1,1 million de résidents des provinces de Kagoshima et de Miyazaki étaient concernés par ces instructions d'évacuation, mais seulement une minorité, environ 3 000, dont de nombreuses personnes âgées, avaient rejoint les refuges ce matin dans la préfecture de Kagoshima, selon un décompte officiel. Vieux Afrique, le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays appuie le gouvernement libyen basé à Tripoli, a estimé dans des propos publiés aujourd'hui que l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, n'est qu'un pirate. Monsieur Erdogan, dans une interview publiée par plusieurs journaux turcs, a rappelé que son pays appuyait le gouvernement d'Union nationale, GNA, de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Ce gouvernement siège à Tripoli, que les forces du maréchal Haftar tentent de conquérir militairement depuis avril. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a approuvé un accord pour la construction d'un gazoduc entre son pays et Chypre dans une région où le gaz naturel est devenu un enjeu stratégique et une source de tension. Cet accord est destiné à encourager ces exportations, à assurer la sécurité du transport du gaz naturel et éviter la double imposition dans ce commerce. Les découvertes récentes de gisements en Méditerranée orientale ont entraîné un rapprochement dans ce domaine de l'Égypte, de Chypre, de la Grèce et d'Israël. En Algérie, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a proposé hier, dans un discours à la Nation, un dialogue pour préparer la présidentielle dans lequel ni les autorités politiques ni l'armée ne seront, selon lui, impliquées. Un mouvement de contestation lancé en avril continue de refuser que le système en place organise la présidentielle et réclame au préalable le départ de tous les anciens soutiens du président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika. Internet a été totalement rétabli en Mauritanie avec la fin mercredi du blocage de la connexion mobile interrompue après les heures qui ont suivi la présidentielle du 22 juin. C'est donc en Mauritanie un retour à la normale. Raïssa Girondin.
L'Internet coupé le 25 juin après les heures qui ont suivi l'annonce des résultats de la présidentielle a été rétabli. Les quatre candidats de l'opposition continuent de contester l'élection au premier tour de l'ancien chef d'état-major Mohamed Cheikh Oud Ghazouani, proclamé vainqueur lundi par le Conseil constitutionnel. L'un des candidats, le militant anti-esclavagiste Biram Dalabed, arrivé deuxième, a appelé hier les autorités à privilégier la paix civile et la tranquillité en libérant les détenus. Les partisans de l'opposition et quelques étrangers qui étaient en détention ont été libérés mardi. Monsieur Ghazouani succédera le 2 août à Mohamed Oul Abdelaziz. C'est la première transition entre deux présidents élus dans ce pays du Sahel qui a souvent été secoué par de nombreux coups d'État.
Nos infos sur voafrique.com.
Les généraux au pouvoir au Soudan et des chefs de la contestation vont poursuivre aujourd'hui les négociations entamées la veille pour discuter de la transition. Première rencontre du genre depuis la dispersion meurtrière d'un sit-in de manifestants à Khartoum début juin. Après plusieurs heures de discussion, mercredi soir, les deux camps se sont mis d'accord pour poursuivre les négociations aujourd'hui. Des pourparlers entre les deux camps avaient été suspendus le 20 mai, chaque parti souhaitant prendre la direction de la transition à venir, prévue sur 3 ans. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté hier un projet de loi pour la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante en vue de la présidentielle de 2020, un texte dont les travaux préparatifs ont été boycottés par l'opposition. La crédibilité de la CEI est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue 10 ans après la crise post-électorale ivoirienne. La nouvelle CEI doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant, un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement répartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Au Niger, les autorités ont mis en place un dispositif spécial de plusieurs milliers d'hommes pour assurer la sécurité du sommet de l'Union africaine qui commence aujourd'hui à Niamey. Les précisions d'Irénée Amanoumbo.
Nous avons un dispositif spécial dans la capitale, a déclaré Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur du Niger, qui fait face à des attaques récurrentes de groupes djihadistes dans l'ouest et de Boko Haram dans le sud-est. Il n'a pas dévoilé les chiffres exacts, mais a souligné qu'en plus des milliers de policiers, il y avait des milliers de militaires déployés à Niamey. Ce sommet est important pour nous. On a besoin d'avoir une image attirante qui ne nous associe pas au terrorisme, a-t-il indiqué. La rencontre doit réunir une cinquantaine de chefs d'État. La capitale nigérienne est déjà fortement militarisée. Les grands hôtels, restaurants et lieux publics font en permanence l'objet de mesures de sécurité.
Plusieurs milliers de personnes défilent aujourd'hui dans les rues de la capitale du Malawi, Lilongwe, pour dénoncer la réélection à leurs yeux frauduleuse du président Peter Mutharika. Mais les manifestants se dirigeaient vers le Parlement protégé par d'importants effectifs des forces de l'ordre où ils projettent de rester rassemblés jusqu'à demain vendredi. De nombreux magasins de la capitale sont restés fermés aujourd'hui en prévision de cette journée de protestation. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous recevrez Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.